Père du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de Quasimodo. Quasimodo comme des enfants nouveau-nés, selon ce qui est bien dans l'introïte de ce jour. Mais aussi, nous sommes le dimanche Iapis, c'est-à-dire que autrefois, les baptisés de la vigile pascale restaient en blanc pendant une semaine et ils déposaient vêtement blanc qu'ils avaient reçu, symbole de la pureté fraîchement acquise par l'eau qui avait coulé sur leur front et la grâce infusée dans leur âme. C'est depuis quelque temps aussi la fête, le dimanche de la miséricorde, parce que le désormais bienheureux Jean-Paul II avait voulu que ce dimanche-là soit véritablement dimanche de la miséricorde. Et il nous faut, puisque je viens de prononcer son nom, il nous faut être en union toute particulière aujourd'hui avec la béatification qui est en train de se réaliser à Rome. Jean-Paul II, autrefois notre pape, est béatifié par son successeur, notre pape actuel, Benoît XVI. Je pense que Jean-Paul II restera dans l'histoire de l'Église pour plusieurs choses. Les premières qui me viennent à l'esprit, ce sont ses grandes encycliques, et spécialement les dernières encycliques qu'il a rédigées, à savoir « Veritatis Splendor » en morale, et Dieu sait si il faudrait encore dire et redire et faire comprendre ce message de « Veritatis Splendor » concernant toute la morale catholique. Également, un point que son successeur continue de traiter sans relâche, c'est le rapport qu'il y a entre la foi et la raison. Et c'était la belle encyclique « Fides et Ratio » qui reprenait, après un siècle, une sorte de condamnation du néo-modernisme. Toutes ces choses-là avaient été dites à nouveau par Pie XII dans Humani Generis et elles ont été à nouveau rappelées par Jean-Paul II. En fait, depuis un siècle, on n'arrive pas à sortir de ce dilemme de la modernité qui ne comprend pas que la foi surélève et purifie la raison et n'a rien d'anti-rationnel. Enfin, la troisième qui me vient à l'esprit, c'est ce très beau texte Ecclésia de Eucharistia, parce qu'il y avait tellement d'erreurs, pour ne pas dire d'approximations, concernant la doctrine sur l'Eucharistie, que le pape a bien rappelé ce qu'il en était de la messe, ce qu'il en était de l'Eucharistie, rappelant qu'il était à la fois sacrifice et banquet, ce qui est vrai, mais ces deux aspects, il rappelle qu'il y en a un qui est plus important et qui détermine le second, à savoir que la messe et l'Eucharistie sont d'abord sacrifice. Enfin, c'est le pape qui va donner un grand coup de boutoir dans le communisme, cette idéologie athée, intrinsèquement perverse, comme l'avait dit son prédécesseur Pie XI, et cela aura ouvert la voie à la libération dans tous les pays de l'Est. Malheureusement, il faut bien avouer que tous les pays ne sont pas encore libérés de cette idéologie athée. Mais enfin, il aura fait beaucoup pour détruire le rideau de fer et le mur de Berlin. Il avait mis en garde quand même qu'une fois libéré de ce joug, il ne fallait pas tomber sous un autre joug, peut-être plus insidieux encore, qui est celui du libéralisme sans frein, qui va pourrir progressivement non seulement les corps, mais aussi les âmes, et distiller son venin, d'autant plus pervers qu'on se jette sur ce venin pensant que c'est la liberté qui est offerte. Enfin, c'est le pape qui va donner le premier indulte pour le monde entier de 1984 concernant la messe traditionnelle, ce qu'on appelle désormais la forme extraordinaire du rite romain. Première brèche dans cet ostracisme qui avait duré quand même depuis de nombreuses années, presque 14 ans, et enfin il y avait un texte qui commençait cette libération progressive, et avec le motu proprio 88, eh bien ce sera à nouveau une ouverture d'autant plus grande et qui permettra au pape Benoît XVI de nous donner son motu proprio qui libérera définitivement la messe traditionnelle. Également, et je crois qu'il faut souligner tous ces bons aspects, également, ce sera le pape des JMJ. Le pape qui va s'attacher, je pense, toute la jeunesse, et on avait peur que ces mouvements un petit peu de foule, et ces mouvements peut-être un petit peu éphémères, soient trop attachés à sa personne en tant que, non pas pape, mais en tant que Jean-Paul II. Et il faut bien avouer que cela n'est pas le cas, puisque son successeur, eh bien, lors des JMJ qu'il a pu faire, que ce soit en Australie, que ce soit à Cologne ou bientôt à Madrid, remporte exactement le même succès. Cela veut dire que le pape Jean-Paul II avait réussi à fédérer autour de sa personne, mais en faisant en sorte que cela dépasse sa personne, mais bien sa fonction, ce qu'il était en vérité, à savoir le pape, le chef de l'Église catholique. Je pense que beaucoup auront été touchés par ces JMJ. Pape également marial, puisqu'il a fait beaucoup pour à la fois donner des instructions sur le rosaire, mais aussi, eh bien, avec cette devise, un totus tous, tout à trois. Le pape des canonisations, puisqu'il a, tout en respectant d'ailleurs les procédures canoniques, il a béatifié et canonisé plus que l'ensemble des papes réunis. C'est dire s'il a pu, j'allais dire, non pas maître du monde au ciel, mais déclarer saint, déclarer vertueux de manière héroïque énormément de personnes qui sont désormais pour nous des exemples vivants au ciel et que nous devons imiter. Je crois qu'il faut régulièrement, justement, vivre et également étudier, lire toutes ces belles biographies qui nous sont données et qui sont des exemples vivants pour nous. Et justement, il y en a une qui l'a canonisée, une grande sainte qui était sœur Faustine, désormais sainte Faustine, dont tout le message est véritablement un message qui concerne la miséricorde. Elle a été touchée par cet aspect de la doctrine catholique qui est l'aspect de la miséricorde de Dieu pour tout le genre humain. Une miséricorde infinie, non pas nos petites miséricordes humaines, mais une véritable miséricorde infinie. Elle en a été touchée et donc elle a pu, par toutes les révélations que le Christ a bien voulu lui faire, il faudrait, je vous invite à relire peut-être pendant ce temps pascal, eh bien, le petit journal de Sainte Faustine. C'est absolument admirable de voir tout ce que le Christ lui révèle de la bonté de son cœur. Il ne veut pas seulement faire les choses pour nous, mais qu'il veut également systématiquement reprendre les choses que nous avons cassées, reprendre les choses que nous avons brisées dans nos vies et qui nous permettent, eh bien, de repartir, qui nous permettent d'être à nouveau, comme dit Saint-Pierre, des petits-enfants nouveau-nés. Et systématiquement, le bon Dieu va nous redresser, va nous reprendre, va nous remettre sur le chemin, va nous remettre sur les rails d'une vie droite, et nous en avons extrêmement besoin. Mais peut-être que pour nous, catholiques, qui vivons de cela, par spécialement la confession, nous avons peut-être pris l'habitude de ne plus nous émerveiller sur cette miséricorde, de trouver ça finalement logique. Dieu est notre Père, Dieu nous pardonne. On a fait une grosse bêtise, on a fait même des péchés peut-être graves, mais Dieu est Dieu, il a dit, il est amour, donc il va nous pardonner. Et je crois qu'il faut retrouver une qualité d'étonnement par rapport à cette miséricorde. Dieu, si vous me permettez l'expression, dépasse la justice dans cette miséricorde. Évidemment, en Dieu, justice et miséricorde sont non seulement liés, mais intrinsèquement en lui. Mais on va dire qu'il dépasse la justice. Dieu n'est pas obligé de nous racheter. Dieu n'est pas obligé de nous rendre sa grâce. Dieu n'est pas obligé de systématiquement nous reprendre par la main et de nous remettre dans le bon chemin. Pour nous, c'est devenu presque une évidence, mais il faut encore une fois retrouver les yeux de l'enfant qui, par rapport à ce grand mystère de la miséricorde de Dieu, est absolument conquis. Et cela ne doit pas seulement nous en faire profiter de cette miséricorde, cela doit nous permettre de nous rapprocher de Dieu. Et peut-être que nous sommes invités, nous aussi, à faire miséricorde. Parce que lorsque Dieu agit, cela nous profite. Mais lorsque Dieu agit, c'est aussi pour nous permettre d'agir de la même manière. Et voilà ce qui est absolument incroyable. Dieu nous permet d'être miséricordieux en étant lui-même miséricordieux à notre endroit. Alors, en vérité, si Dieu pardonne aux autres, si Dieu relève les autres, eh bien, nous sommes amenés à rentrer dans ce même mouvement de pardon, de miséricorde et d'amour. Et plus nous allons réussir à pardonner du fond du cœur, plus nous allons réussir à relever et à nous relever en premier, eh bien, plus nous allons nous approcher de Dieu, plus nous allons ressembler à Dieu et être unis intimement. Et finalement, sa miséricorde pour les autres, eh bien, nous en aurons été les instruments. Et nous n'aurons fait plus qu'un avec la miséricorde du bon Dieu, parce qu'il se sera servi de nous pour relever les autres. Également, peut-être, eh bien, il faudrait prier tout spécialement pour les prêtres, et pour les prêtres qui sont aussi les instruments privilégiés de cette miséricorde. Priez pour les prêtres qui vous ont confessé, peut-être une fois seulement, mais c'était peut-être une confession extraordinaire, ou peut-être des dizaines, voire des centaines de fois, où ils vous auront donné le pardon du Seigneur. Parce que, eh bien, pour le donner, il ne suffit pas seulement, j'allais dire, d'être prêtre. Évidemment, cela suffit pour une absolution valide, de conditions, mais enfin, nous passons aujourd'hui. Mais si on veut vraiment des grâces, si on veut vraiment, eh bien, que les prêtres puissent véritablement toucher les cœurs et être les instruments privilégiés de la miséricorde du bon Dieu, eh bien, il faut absolument prier pour eux. Le Seigneur a donné ce pouvoir à ses disciples lorsqu'il va souffler sur eux en leur disant « Recevez le Saint-Esprit. Hein, ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, ceux qui vous les retiendrez leur seront retenus. » Eh bien oui, ce pouvoir qu'ont reçu les apôtres ont pu le donner aux évêques qu'ils ont ordonnés et également les évêques aux prêtres qu'ils ont pu également ordonner. C'est un grand mystère de la miséricorde de Dieu qui se répand dans toute l'Église et qui vous permet ensuite d'être miséricordieux à votre tour. Et la miséricorde retisse, j'allais dire, les liens entre nous. Si l'Église est véritablement communion, eh bien c'est parce qu'il y a cette miséricorde qui doit s'épouser absolument entre nous. Et alors, la communion, eh bien, s'épanouit en paix. Voilà sans doute pourquoi le Christ, lorsqu'il apparaît dans ses doubles apparitions dont il est fait mention aujourd'hui dans l'Évangile, eh bien, va dire « La paix soit avec vous ». Effectivement, le fruit de la miséricorde, le fruit de la communion, c'est justement la paix. Et nous cherchons tous la paix, nous voulons tous la paix, c'est ce que dit dans de très beaux textes de saint Augustin. Alors si nous voulons profiter de cette paix, soyons infiniment miséricordieux, comme nous y invite Jean-Paul II, comme nous y invite saint Faustine, comme nous y invite le Christ lui-même dans l'Évangile d'aujourd'hui, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.